Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux pandémies passées et aux pandémies futures. À l'ordre du jour ce soir, comprendre le Covid permet-il d'anticiper les pandémies futures? 4 ans après le déclenchement de la pandémie, les centres de recherche continuent de publier des études sur le Covid qui précisent les connaissances sur le mécanisme qui a conduit à transformer une maladie émergente en pandémie. L'OMS débat encore d'ailleurs sur un texte contraignant qui permettrait de mieux se préparer à une future pandémie. Les discussions sur ce thème ont débuté il y a un peu plus de 2 ans et devraient aboutir sans que quiconque en ait l'assurance. D'ailleurs, pour l'Assemblée mondiale de la santé qui se déroulera fin mai. Mais comment se préparer à une maladie nouvelle dont les mécanismes de transmission sont encore inconnus? C'est l'hypothèse de la maladie X liée à un pathogène émergent inconnu qui fait actuellement travailler chercheuses et chercheurs dans les laboratoires du monde entier et fantasmer évidemment les complotistes. Sans compter que des virus déjà connus, maîtrisés, peuvent aujourd'hui se changer, muter et provoquer de nouvelles épidémies majeures. Nous en discutons avec nos 3 invités. Yazdan Pana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes dans notre studio, vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, directeur de l'ANRS maladies infectieuses ainsi qu'à l'INSERM. Avec nous à distance, Sylvie Briand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du Conseil pour le suivi et la préparation des épidémies et pandémies à l'OMS. Et enfin, 3e invité, Rodolphe Gosselin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en écologie et directeur de recherche en écologie de la santé, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
La première alerte reçue par l'OMS remonte au 31 décembre 2019. Elle fait état d'une série de cas de pneumonie d'origine inconnue, dont l'épicentre se situe à Wuhan, une ville au cœur du pays, aussi grande que l'Île-de-France. Les premiers malades sont des vendeurs de poissons et fruits de mer. Ils travaillaient dans ce marché.
D'après nos informations, une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie. Une transmission limitée est possible d'humain à humain par contact étroit.
Le cas qui a été hospitalisé à Bordeaux et qui a circulé sur les réseaux sociaux est bien un cas confirmé, positif pour le coronavirus. Le patient est âgé de 48 ans. Il revient de Chine où il a fait un voyage de quelques jours. Il est passé par la ville de Wuhan. Il est revenu en France le 22 janvier. Nous allons mettre tout en œuvre aujourd'hui pour circonscrire cette épidémie, sachant qu'il est possible, voire probable, qu'il y ait d'autres cas, notamment en Europe.
C'était en janvier 2020 et on a un peu peur en réécoutant ce genre d'archives. Les journaux télévisés s'inquiétaient de cette pneumonie mystérieuse. C'était sur BFM et suivi d'une prise de parole de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui évidemment reconnaissait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais on ne savait pas très exactement quoi. Vous avez vécu cela au premier chef, Yazdan Pana. Quand vous réécoutez une archive comme cela, vous vous dites quoi 4 ans plus tard?
Quelque part, je pense que quand on est plongé un peu dans le passé, un peu triste quand même. Je pense qu'on a vécu des moments difficiles.
Des moments d'incertitude aussi.
Oui, des moments d'incertitude, parce qu'on ne connaissait pas du tout de ce virus-là. Avec le temps, on apprenait ce qui se passait, c'était quoi le virus, les modes de transmission, etc. etc. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très important de revoir tout ça pour s'améliorer, pour l'avenir. Il faut se tourner vers l'avenir pour essayer de s'améliorer, mieux se préparer sur des futures épidémies et pandémies. Il y a eu l'épidémie de SARS en 2003. Mmh. Il y a eu la N1 en 2009. Il y a eu l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Et chaque fois, on s'est amélioré.
Comment d'ailleurs ? On s'améliore, bien que ce soit vraiment des virus et des pathologies différentes, comment on s'améliore?
Oui, alors, premièrement, on s'améliore, c'est pas noir et blanc, c'est pas quand on n'était pas du tout préparé, aujourd'hui on est hyper bien préparé, je pense que c'est un continuum, on améliore. Alors comment on s'améliore? Il est très important de mettre en place des choses pour anticiper, mieux s'organiser. anticiper, à mieux surveiller et à mieux détecter. Une surveillance qui doit être d'ailleurs multidisciplinaire, pas que chez les hommes. L'importance de l'environnement, l'importance de One Health, je pense que on a un invité qui va nous en parler. Il est important de prévenir, non seulement au niveau de l'homme, mais aussi, au niveau aussi de l'environnement, le passage à l'homme, un certain nombre de germes qui peuvent être pathogènes. Il est important de mettre tout ce qui est possible pour essayer de vite mettre en place des innovations. On a vu, là, finalement, c'est le vaccin qui a permis de diminuer le nombre de cas. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais c'est l'innovation qui est très importante. Il est important de travailler aussi sur l'acceptabilité de l'innovation.
Ah oui, parce qu'on a vu aussi beaucoup de réticences à ce vaccin. On l'imagine. Sylvie Briand, vous qui êtes directrice du Conseil pour le suivi et la préparation des épidémies et des pandémies à l'OMS, vous êtes plongée dedans d'une certaine manière. Nous, nous en sommes écartés, nous sommes loin de cela. Nous ne vivons plus au même rythme que l'année 2020 ou l'année 2021. Nous vivons avec d'autres préoccupations, les guerres en Ukraine ou les guerres au Proche-Orient. Et d'une certaine manière, nous replonger dans cela, ça nous redit effectivement combien nous étions démunis collectivement.
Ah oui, tout à fait. Bon, évidemment, je pense que la difficulté, c'est que il y a des pathogènes en fait qui émergent et qui créent des petites épidémies localisées quasiment tout le temps. Nous, on détecte à peu près 30 événements de ce type par mois. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, on arrive à les contenir à la source. On les détecte suffisamment précocement pour pouvoir tout de suite mettre en place des mesures qui vont stopper la transmission de ces pathogènes émergents. Et le problème dans le cas de Covid, c'est que le virus est dispersé très très vite dans la planète parce qu'on voyage beaucoup, on bouge beaucoup, donc les virus bougent avec les humains et que très rapidement il y a eu des multiples épidémies partout et certains pays étaient plus prêts que d'autres parce qu'ils avaient déjà eu des alertes, par exemple la Corée avec le MERS en 2015. Avait déjà mis en place des mesures et s'était bien préparé, mais d'autres pays qui n'avaient pas eu des alertes de ce type dans les années précédentes, en fait, ont sous-estimé d'abord le risque et puis ensuite n'avaient pas été suffisamment avertis pour être prêts à faire face à une épidémie de cette ampleur.
Oui, et de votre côté, Rodolphe Gosselin, vous avez publié récemment dans un article de The Conversation que je conseille à nos auditeurs parce qu'il permet de comprendre effectivement ce qui pourrait se passer, le travail que vous menez en commun avec plusieurs autres chercheurs autour justement de la possibilité émergente d'un nouveau virus ou d'une nouvelle pandémie. Comment on travaille, quand on travaille comme vous sur ce sujet-là, vous qui êtes à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, comment on travaille sur ces questions-là collectivement? Parce que j'imagine que ça ne peut pas être un travail individuel.
Bien, la meilleure façon d'avancer, en fait, pour prédire l'avenir, c'est de regarder dans le passé et de voir quels ont été les pathogènes qui ont émergé ces dernières décennies. Et d'essayer de comprendre le lien qu'il y avait entre leur émergence et des facteurs environnementaux, populationnels, climatiques.
C'est-à-dire qu'on classe plus ou moins. Vous faites quoi? Vous faites un classement de ces émergences et de la manière dont elles ont elles sont sorties en dehors de leur milieu?
Non, on ne classe pas. En fait, ce qu'on regarde, c'est que pour chacune des émergences, on a un certain nombre de cas et on essaie d'extraire les variables de l'environnement à l'endroit où elles ont émergé, c'est-à-dire les climats présents, le nombre de populations, la densité, les différents porteurs animaux qui pourraient s'y trouver. Et on voit lequel de ces facteurs est le plus à même d'expliquer le lien avec l'émergence de ces maladies. Et on modélise ça, on valide la solidité de ces liens et on regarde sur la planète les endroits qui ont les mêmes caractéristiques environnementales pour essayer de prédire le risque d'émergence d'un pathogène.
Et quand je dis que vous classez au moins les familles, les grandes familles de virus. J'imagine que, alors moi j'ai découvert les filovirus, les coronavirus, on les connaît maintenant, les adenovirus qui sont différents, et que ces familles de virus qui ont provoqué soit Ebola d'un côté, soit la maladie de Marbourg d'un autre côté, soit le virus de Andrin ou les SARS-CoV-1, 2, etc. et les MERS, eh bien cela permet d'une certaine manière déjà de voir qu'ils ont lieu dans certains lieux avec certaines conditions climatiques et que peut-être là, il faut surveiller cela, c'est cela ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'OMS a mis en place une liste des pathogènes les plus virulents de ces dernières décennies avec des virus pour lesquels on avait très peu de moyens de soins. Et donc, on s'est basé sur cette liste-là, qui, comme vous l'avez dit, se divise en trois grandes familles, les filoviridés, les coronaviridés et les adenovirus. Et on regarde sur chacune de ces familles quelles sont les caractéristiques qui les relient à l'environnement,
à la température
locale et à leur géolocalisation.
Et la température aussi, j'imagine, parce que
ça
a de l'importance. Yasnan Pana, sur justement cette classification, cette capacité à prédire ou à ne pas arriver à prédire d'une certaine façon l'émergence d'une nouvelle maladie qui pourrait devenir une épidémie, voire une pandémie.
Oui, effectivement, comme ça a été dit, l'OMS le fait. Il y a d'ailleurs une réunion de nouveau le 9 et le 10 mai à l'OMS pour ça. Et c'est une classification qui est constante, hein, continuelle, parce que...
Donc on met à jour.
On met à jour. Il y a une mise à jour constante. En France, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a une dizaine de jours, COVARS a fait pour la France.
Bien sûr, ce qui a suivi, donc le comité de suivi...
Voilà,
le
comité scientifique qui maintenant s'appelle COVARS, a fait aussi un listing, parce que c'est important aussi, bien sûr, au niveau international, mais au niveau local. Et cette classification, c'est en fonction, finalement, un, de l'impact potentiel d'une maladie. Ça veut dire, et en général, par exemple, les viroses respiratoires, la grippe ou, la grippe aviaire éventuellement, ou les coronavirus, etc., peuvent avoir un impact important. Donc, c'est l'impact de la maladie, l'impact pas seulement en termes de santé, mais aussi économique. C'est est-ce que il y a ou pas des contre-mesures pour les contrer, des traitements, des vaccins, etc. Et avec l'ensemble de ça, on fait des listings. Et effectivement, en général, les viroses respiratoires arrivent en premier. Vous avez aussi une grippe avec des mutations, pas les grippes saisonnières qu'on a, mais avec des mutations, coronavirus qu'on a vu, etc. Vous avez la famille des arboviroses.
Alors les arboviroses, c'est ce qui est porté par les moustiques, c'est ça ?
Voilà, c'est des transmissions par des vecteurs, des moustiques, mais aussi parfois par des tiques. Mm-hmm. Donc vous avez la dengue qu'on connaît, qui fait des ravages cette année, notamment en Amérique du Sud, mais aussi aux Antilles.
Oui. Il y a une énorme épidémie de dengue pour l'instant en Argentine, au exactement. Paraguay et au Brésil.
Voilà, il y a cette année, je pense qu'il y a près de 4 fois plus de cas que... Et il y a aussi des cas, parce que maintenant, avec le réchauffement, on a aussi des moustiques qui peuvent transmettre la dengue
les
en Europe.
Les moustiques en particulier, les qui moustiques sont déjà arrivés ici.
Qui sont déjà, vous avez vu, il y a eu au mois d'octobre une transmission autochtone, une seule, dans la Val-de-Marne. Donc c'est des choses que, pour l'instant, on n'a pas, heureusement, mais qu'on peut avoir. Et donc ça aussi, c'est à surveiller. Et enfin, les filovirus qui a été dit, c'est les fièvres hémorragiques.
Donc ça, c'est moins Ebola, en France, ou la fièvre de Marburg.
Mais dans les pays africains en particulier.
Oui, sur ce point, Sylvie Briand, est-ce qu'on n'a pas, quand on a un poste comme le vôtre de directrice du Conseil pour le suivi et la préparation des épidémies et des pandémies à l'OMS, d'une certaine manière, on se dit ça peut partir de partout. Alors évidemment, ce que nous dit Rodolphe Gosselin, c'est qu'il y a des endroits plus favorisés pour le démarrage d'une pandémie. Ça peut partir de partout et donc il faudrait être en alerte sur tout.
Oui et non.
Justement, dites-nous pourquoi non, ce serait intéressant, justement.
Non, je pense qu'il faut avoir effectivement des systèmes qui permettent de détecter des signaux précoces pour pouvoir justement réagir très vite. Mais Mais ce qu'il faut surtout, c'est essayer de bien comprendre la dynamique en fait de ces épidémies, parce qu'en général, quand il y a un virus émergent, il est peu transmissible, et donc au début, on a probablement une opportunité justement de le contenir à la source. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà d'identifier sur Terre ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des points chauds dans lesquels le risque est plus important, pour pouvoir justement focaliser nos efforts sur ces points chauds. Et souvent, c'est des zones tropicales où il y a des problèmes de développement, où il y a des systèmes de santé qui sont pas très forts, et où les systèmes de surveillance non plus sont pas très très robustes. Alors donc c'est important en fait de renforcer les capacités dans ces endroits-là, parce que ça va être, enfin c'est une question de probabilité, mais on pense que si on a des capacités renforcées dans ces endroits-là, on sera plus à même déjà de bloquer la transmission du virus à la source. Et puis après, évidemment, tous les pays doivent être prêts que si jamais le virus arrive chez eux, ben effectivement, il faut avoir toute une série de mesures pour pouvoir gérer au moins les premières semaines de façon à ce que on ne revive pas ce qu'on a vécu pendant Covid, c'est-à-dire que les systèmes de santé sont complètement submergés, qu'il y a une panique qui s'installe, qu'on n'a pas de masque, qu'on n'a pas de gants, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, il faut que les pays se préparent aussi à ces éventualités et mettent en place justement les mesures et les systèmes qui vont leur permettre de réagir vite et bien.
Est-ce que vous avez mesuré aussi, disons, le risque de réticence à l'arrivée de ces nouveaux virus, quand on a commencé à parler de la maladie X, qui est une hypothèse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire au cas où une nouvelle pandémie arrive, on a vu tout de suite, effectivement, que tout un tas de groupes complotistes ou de groupes qui ont considéré effectivement que les mesures prises pendant la Covid étaient attentatoires aux libertés, par exemple, et qui se sont beaucoup mobilisés contre cela, disent, voilà, c'est encore la preuve qu'on nous invente une nouvelle maladie. Est-ce que vous mesurez cela à l'OMS et qu'est-ce qu'on peut faire contre cela ?
Tout à fait, parce que ce qu'on a vu pendant Covid, en fait, c'est que un des impacts des pandémies, outre le nombre de patients dans les hôpitaux, le nombre de gens qui vont décéder, etc., un des impacts importants sur les sociétés, c'est justement la méfiance. Et on a vu, en fait, dans beaucoup de pays, en particulier dans les démocraties, que la confiance dans les autorités, dans les mesures sanitaires, dans les systèmes de santé, a beaucoup, beaucoup diminué. Donc ça, c'est un impact des crises sanitaires. Et donc, il faut déjà se préparer à ce qu'il y ait ce déficit de confiance. Et c'est très important, donc, avant les pandémies, dans les périodes entre les crises, de travailler à renforcer la confiance des populations dans leurs autorités sanitaires, dans les systèmes de santé, dans les traitements, dans les vaccins aussi. Parce que quand on arrive en début de crise, si le niveau de confiance est très, très bas, eh bien, en fait, on sait qu'il va encore baisser au début de la crise. Et donc, c'est très important d'avoir un haut niveau de confiance avant la crise.
Il y a un panache sur ce point.
Alors, sur ce point-là, alors, beaucoup de choses ont été dites sur les confiances et sur la confiance aux scientifiques. Je voulais d'abord citer, il y a une étude qui vient de sortir par des chercheurs français sur, justement, la confiance de la population aux scientifiques, notamment sur tout ce qui est hésitation vaccinale, etc., on voit que la confiance aux scientifiques est bonne. Donc je pense que ça, c'est très important de souligner. Deuxièmement...
Malgré justement les débats...
Même nous, on était étonnés par les résultats. C'était sur un échantillon très large où ils ont étudié. Je vous enverrai le papier.
Très volontiers.
Et c'est très intéressant. Bon. Après, il y a une... Cette crise de confiance dont on parle, c'est aussi parce que les outils sont différents aujourd'hui par rapport à 10 ans. Je pense que...
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Les réseaux sociaux...
Ah oui,
vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire, en fait, la circulation de l'information, vous êtes beaucoup plus expert que moi, et sont différents. Et je pense que nous, les scientifiques... Il faut aussi maintenant qu'on considère ça. Il faut qu'on travaille là-dessus. L'OMS maintenant a commencé à utiliser un mot qui s'appelle l'infodémie. C'est l'épidémie de l'information. Et maintenant, dans nos congrès, on a des sessions autour de l'infodémie.
C'est-à-dire comment s'exprimer dans les médias, comment expliquer mieux pour des gens qui ne savent pas.
Et aussi, comment essayer peut-être de contrer les tweets qui disent des contre-vérités dont on sait maintenant qu'ils sont beaucoup plus retweetés que les tweets qui sont vrais. C'est des choses qu'on découvre, c'est des choses sur lesquelles on est en train de... Il faut qu'on forme les jeunes pour essayer aussi de travailler, parce que c'est un travail. C'est de la recherche aussi, il faut qu'on fasse ça, et ça c'est très important.
18h41 sur France Culture, vous écoutez l'émission Le Temps du Débat. Comprendre le Covid permet-il d'anticiper les pandémies futures? C'est la question que nous posons, vous venez de l'entendre, à Yazdan Pana, qui est professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, directeur de la NRS maladies infectieuses, et ainsi que directeur à l'INSERM. Avec nous également Rodolphe Gosselin, qui est professeur en écologie de la santé et directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et Sylvie Briand est directrice du Conseil pour le suivi et la préparation des épidémies et pandémies à l'OMS.
Le Covid-19 a laissé et continue de laisser de profondes cicatrices dans notre monde. Ces cicatrices doivent servir de rappel permanent sur la possibilité que des virus peuvent émerger dans le futur avec des conséquences dévastatrices. Au niveau mondial, la souffrance que nous avons endurée, les leçons douloureuses que nous avons apprises, les investissements que nous avons réalisés et les capacités que nous avons construites ne doivent pas être gaspillées.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Vous venez d'entendre le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. C'était en mai 2023. Ces moments ne doivent pas être gaspillés, disait le directeur général de l'OMS. Votre travail avec d'autres chercheurs, Rodolphe Gosselin, c'est justement de ne pas gaspiller ce travail commun des chercheurs et de tous ceux qui ont travaillé sur l'épidémie et la pandémie de Covid pour pouvoir mieux se préparer à la suite. Vous nous avez bien expliqué le mécanisme que vous surveillez, comme le disait aussi Sylvie Briand, c'est-à-dire comment faire attention justement à ces endroits où il y a plus de tentatives ou de possibilités qu'émerge une nouvelle pandémie. Et pour cela, ce sont à la fois des sciences dures et des sciences humaines qui travaillent ensemble.
Oui, je voulais juste revenir deux secondes sur la confiance dont on avait parlé avant et rebondir sur votre question. La confiance vient du fait aussi que le temps de la recherche est un temps long et le temps de l'information est un temps court. Et par exemple, dans la crise Covid, on a cru au départ que l'émergence venait des marchés de Wuhan et du pangolin. On s'est rendu compte, et de plus en plus, bon là, il y a eu le sénateur Paul Rand qui, il y a trois jours, a relâché des...
C'est un sénateur républicain américain, donc
voilà,
effectivement...
C'est ça.
Et qui a essayé de montrer qu'effectivement, il y avait peut-être d'autres sources à cette pandémie.
C'est ça, oui. Donc, même John Ratcliffe, qui est le directeur du renseignement national aux États-Unis, de plus en plus a indiqué devant la commission sénatoriale qu'il y avait un lien entre la présence du labo P4 à Wuhan et l'émergence. Donc, c'est important d'avoir cette clarté, cette transparence, parce que sinon, on est en train de perdre... Nos auditeurs, et bien que les zoonoses sont effectivement un mécanisme très connu.
Donc les zoonoses, c'est donc la transmission par le changement de l'environnement des maladies d'un animal à l'homme, par
voilà,
exemple.
Parce que c'est important de comprendre que les pathogènes ne se transmettent pas à l'homme directement. C'est-à-dire que si vous allez en forêt, il y a énormément de pathogènes, il y a énormément d'animaux qui sont porteurs de pathogènes, et pourtant, elles ne sont pas bien adaptées à l'homme. En fait, il faut créer ces fronts de contact avec l'homme pour que le pathogène puisse s'adapter et passer de l'hôte qui est un animal à un hôte qui est humain. Parce que quand même, l'humain a un fonctionnement et un système immunitaire qui est très particulier. Donc, ces zones de contact et ces gains de fonctions, c'est-à-dire le pathogène va muter et gagner des fonctions qui vont le faire adapter
à l'homme,
le rendent plus dangereux. Alors, ce qui est dangereux, c'est que évidemment, quand on fait ce genre de programme en laboratoire, il vaut mieux s'assurer qu'il n'y ait pas
de sortie du laboratoire. Ouais, c'est ça.
Ouais. Dans la nature, ces transferts depuis le monde sauvage au monde urbain se fait souvent avec les élevages qui sont
intermédiaires.
une concentration de potentiel d'incubation et de multiplication de certaines souches qui sont favorablement adaptées. On l'a vu dans le Nipah, dans la crise Nipah, où les abattoirs de cochons ont permis justement ce transfert à l'homme.
Sylvie Briand, qu'est-ce que vous dites de ce que vient de préciser Rodolphe Gosselin?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a trop tendance à se focaliser sur le virus lui-même. Et qu'il faut aussi prendre en compte en fait un environnement, c'est-à-dire les animaux et l'environnement au sens large, c'est-à-dire parce qu'il y a des virus aussi qui sont plutôt des virus qui seront transmis, qui vivent dans le sol et dans l'environnement.
Bien sûr.
Il faut avoir une vision, ce qu'on appelle une seule santé, c'est-à-dire assez large en fait du risque et ne pas se focaliser seulement sur le pathogène.
Mais on voit bien comment pour le démarrage du Covid, eh bien certains ont commencé tout de suite à dire ça vient peut-être du laboratoire P4 de Wuhan, et puis on a dit tout de suite non, c'est pas ça, etc. On va pas se fâcher avec les Chinois. Il y avait aussi cette dimension-là, Yazdan Pana, qui faisait qu'au bout du compte, on a laissé cette hypothèse du pangolin ou de toute autre source animale progresser pendant très longtemps, et que maintenant, quand on revient dessus, ça peut, là où vous parliez de confiance, ça peut induire une méfiance des auditeurs qui disent on en parle 4 ans plus tard et pas au moment où ça s'est passé.
Je pense qu'il faut toujours être transparent, et quand on sait pas, il faut dire qu'on sait pas.
Eh oui.
Et même, y compris aujourd'hui, il ne faut pas dire des choses qu'on ne sait pas.
Ouais. Et vous voulez dire qu'on ne sait pas encore si c'est le laboratoire
P4 ou... il faut être prudent. Il faut dire des choses pour lesquelles, effectivement, on a des preuves scientifiques et il ne faut pas hésiter à dire qu'on ne sait pas.
Voilà, et donc ça veut dire qu'on pourrait rester dans cet entre-deux, entre différentes causes.
L'OMS a... Sylvie parlera mieux que moi, à une commission qui regarde ça, qui travaille là-dessus, et voilà.
Mais est-ce qu'on peut, justement, Sylvie Briand, laisser un auditoire qui a été, bousculé, parce qu'on a tous été bousculés par ces hypothèses diverses qui se sont succédées, qui se sont superposées, est-ce qu'on peut laisser longtemps un auditoire, on a dit, et c'est ce que disait Rodolphe Gosselin, le temps de la recherche n'est pas le temps des médias, longtemps dans une sorte d'indécision?
Alors, je pense que ce qui est important, c'est de prendre les leçons de la crise Covid, parce que je crois que ça sera très difficile 4 ans après de faire toute la lumière sur les origines de cette pandémie, parce que peut-être qu'on n'a pas collecté au moment des faits les bonnes informations. Donc, il y a plusieurs hypothèses sur la table, effectivement, et ça sera assez difficile de les différencier ou d'en écarter certaines plus que d'autres. Il y a beaucoup d'interprétations, en fait, des données actuellement par différentes personnes qui ont différentes perspectives. Mais je crois que c'est important pour les prochaines crises de bien comprendre que effectivement les activités humaines et notamment les laboratoires, il faut s'assurer de la sécurité des laboratoires, il faut mettre en place des systèmes qui vont faire en sorte que si on fait de la recherche sur certains pathogènes, ça soit fait dans un environnement le plus sûr possible, et se rendre compte aussi que les innovations technologiques sur les virus, par exemple, permettent maintenant de faire des choses qui étaient complètement impossibles il y a quelques décennies, mais par exemple de recréer des virus à partir de l'information génétique qu'on le connaît. Donc, ce sont des nouveaux risques liés aux innovations technologiques qu'il faut prendre en compte et qu'il faut encadrer et justement s'assurer que ça ne va pas poser un danger pour l'homme.
Et parmi ces nouveaux risques, il y a aussi, Rodolphe Gosselin, la question de l'antibiorésistance, par exemple. On utilise beaucoup d'antibiotiques. Ces antibiotiques sont répandus dans la nature un peu partout, et surtout dans les élevages en particulier. Et au bout du compte, on construit de l'antibiorésistance, alors que c'est théoriquement un progrès scientifique que d'avoir inventé ces antibiotiques.
Oui. Tout à fait. En fait, on a parlé jusque maintenant des virus, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 50 000 familles aux USA et 700 000 dans le monde qui, chaque année, perdent des êtres chers liés à de l'antibiotique, de la résistance aux antibiotiques. Et on a eu, il y a un an, Edith Hart, qui dirige le laboratoire européen de biologie moléculaire, qui nous a dit que voilà, la prochaine pandémie sera une pandémie d'antibiorésistance. Donc c'est effectivement une problématique. C'est une problématique qui est gérable en fait, puisque c'est nous qui de par nos utilisations d'antibiotiques,
ce sont nos usages à nous qui d'une certaine manière pourraient conduire à une pandémie future.
Oui, c'est-à-dire que on connaît les mécanismes d'acquisition de ces résistances. Et en fait, bon, bien évidemment, on ne connaît pas tout, mais disons qu'on sait quelles pratiques et quels fonctionnements amènent à promouvoir ces résistances. Et donc, c'est d'une certaine façon plus facile à gérer que l'émergence de virus sauvages qui apparaîtraient dans des constructions urbaines.
Yasdan Panard, on a compris que donc il fallait se méfier des moustiques, il fallait peut-être pas utiliser trop d'antibiotiques, que effectivement il y avait des endroits dans le monde où peut-être pouvaient émerger de futures pandémies parce que les conditions à la fois sociales, culturelles, mais aussi les conditions climatiques le permettraient. Il y a aussi, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, la question des IST, des infections sexuellement transmissibles, qui peuvent aussi avoir des effets. On a dans une émission récente parlé du monkeypox, donc la maladie du singe, qui d'une certaine manière, on pensait qu'elle était derrière nous. Ça peut devenir quelque chose de plus important, parce que récemment, on a vu qu'au Congo, il y avait une épidémie qui redémarrait et qui touchait là, pas simplement les adultes, mais les enfants.
Oui, alors, je voulais dire quand même un mot sur l'antibiorésistance, qui est une épidémie ou une pandémie différente.
Oui, c'est différent.
C'est lent, mais c'est en train de monter. Et effectivement, on peut agir différemment. Il n'y a pas de transmission par voie
Bien
respiratoire.
Sûr.
Donc, c'est pas la même chose. Il n'est pas aussi brutal, mais qu'il y a un vrai danger. Et il faut vraiment agir. Et quand on dit agir, il faut agir au niveau international, parce qu'il y a des endroits dans le monde où l'antibiorésistance est beaucoup plus important, parce que la consommation d'antibiotiques est moins cadrée. Et donc, rappeler du coup que le combat, il faut que ça soit global.
C'est pour ça que le concept One Health, qui est le concept de l'OMS,
voilà,
est un concept qui englobe le monde entier.
Et ça, c'est très important, et la santé mondiale, etc., c'est très important. Pour revenir aux IST... Oui, les infections sexuellement transmissibles, c'est un autre danger. Là aussi, mode de transmission sexuelle, bon, on connaît le VIH, qui a été, malgré tout, sur même aujourd'hui, qui tue encore beaucoup de personnes. Et il faut rappeler que c'est un problème très important aux États-Unis. Actuellement, il y a une réémergence de la syphilis. Au départ dans les communautés à risque, mais même maintenant chez les personnes hétérosexuelles avec transmission mère-enfant. Et donc c'est vraiment important aussi d'insister là-dessus. Vous avez parlé de Mpox, alors variole de singe, qu'on n'utilise pas ce mot et aujourd'hui on parle de Mpox, qui était connu en Afrique de l'Ouest et en Afrique de centre depuis des années épidémique, avec deux groupes différents ou deux sous-types différents, un et deux. On a une épidémie majeure dans les pays du Nord en 2022. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une épidémie majeure en République démocratique du Congo. D'ailleurs, Africa CDC a une réunion autour de ça aujourd'hui et demain. Avec l'OMS, et c'est un vrai sujet important, et il faut de nouveau l'occasion de dire, il faut aussi s'occuper des épidémies quand ils sont ailleurs, parce que sinon, ça...
Ça se transporte assez facilement dans un autre espace.
Premièrement, il faut penser aux autres, et deuxièmement, ça touche aussi ici, si on ne fait pas attention.
Sylvie Briand, on a bien compris effectivement l'ampleur de la surveillance qu'il faut avoir, l'ampleur aussi des précautions qu'il faut prendre pour éviter justement que ces épidémies, quand elles sont localisées, ne deviennent des pandémies. Tout de même, la surprise de la Covid est véritablement quelque chose qui nous a tous touchés, alors qu'il y avait eu auparavant, et Yazdan Pana l'a rappelé, d'autres types d'épidémies qui s'étaient développées, nous a touchés au point qu'on a été saisis, surpris et peut-être interdits devant la question, c'est-à-dire... est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, au bout du compte, on n'a pas du tout envie d'en parler? Quand on a voulu faire cette émission, dans les couloirs de France Culture, on nous a dit « Oh là là, reparler de la Covid, c'est plus tellement à l'ordre du jour.
Ben » Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on a envie de tourner la page. Enfin, tout le monde a envie de tourner la page parce que c'était une crise très douloureuse pour beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de décès et puis ça a impacté beaucoup les économies, nos sociétés... et donc, effectivement, tout le monde a envie de tourner la page. Mais le problème, c'est que le risque, il est toujours là. Il y a beaucoup de virus qui peuvent émerger. Il y a beaucoup de possibilités. Justement, comme je disais, on surveille beaucoup d'épidémies dans le monde. Donc on peut pas juste fermer la porte et peut se dire, bon, bah, ça restera dehors. Ça va continuer à arriver. Mais en même temps, bon, il y a de l'espoir parce que je pense que la médecine a fait énormément de progrès. On est capable d'avoir des vaccins, des antiviraux, des diagnostics. Les hôpitaux sont quand même... on a des soins intensifs qui fonctionnent très bien. On peut sauver des vies. Donc, il y a beaucoup de points positifs dans la modernité. Mais il faut qu'on se prépare, il faut qu'on sache bien utiliser tous les outils qu'on a dans notre boîte à outils pour répondre aux épidémies et pas juste mettre la tête dans le sable, faire l'autruche parce que la réalité nous dit qu'il y a des risques autour de nous et qu'il faut absolument se préparer.
Merci en tous les cas de ce message de prévention, on peut pas dire autre chose. Prévenir, ça n'est peut-être pas toujours guérir, mais en tout cas, c'est éviter d'être saisi comme nous l'avons été pour cette épidémie de la Covid. Merci à tous les trois, merci à vous Sylvie Briand, directrice du Conseil pour le suivi et la préparation des épidémies et des pandémies à l'OMS. Merci à vous Rodolphe Gosselin, professeur en écologie de la santé et directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Je conseille sur le site de The Conversation, l'article que vous avez écrit avec trois autres chercheuses et chercheurs. Et puis merci à vous, Yazdan Pana, professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, directeur de l'ANRS maladies infectieuses, ainsi qu'à l'INSERM. Et vous nous avez effectivement raconté combien ce passage par la Covid avait changé et devait changer l'attitude des scientifiques vis-à-vis en particulier des médias pour pouvoir peut-être mieux faire comprendre le travail de la recherche dont le temps n'est pas le même que celui des médias, on l'a entendu également avec Rodolphe Gosselin. Merci donc, c'était le temps du débat préparé par Mathias Mégy, Fanny Richet, Roxane Poulain, Anouk Sévenot et Bruno Barada, réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Sébastien Royer.